avait disparu de chez lui il y a 3 semaines après une violente dispute entre ses parents. En football, la compétition pour l'organisation de l'Euro 2016, le Conseil fédéral de la Fédération française de football, doit annoncer aujourd'hui les 12 stades où se dérouleront les rencontres si la candidature de la France est retenue. L'UEFA doit trancher entre les dossiers de candidature de la France, de l'Italie, de la Turquie et du binôme Suède-Norvège. Elle se prononcera le 27 mai prochain. Puis en tennis, le Paris Master à Bercy, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Juan Martín del Potro, c'est-à-dire les 5 meilleurs mondiaux, entrent en lice aujourd'hui.
Quelle heure est-il à Caracas,
Serengoïevski, Phnom
Penh, à Kaboul,
Moscou,
Ilana Morioussef,
à Kinshasa,
Istanbul, Jérôme Best,
à Washington, Fabien Santos, France,
avec tous nos correspondants à l'étranger, 45 minutes de reportage et de direct quotidien à tous les coins de la planète.
Du lundi au vendredi à 18h15, et pourtant elle tourne saison 4, Jean-Marc Four. France Inter et les théâtres Nanterre-Amandier présentent du 12 novembre au 13 décembre Médée de Max Rouquette. Mise en scène par Jean-Louis Martinelli avec notamment Odile Sankara.
Dans l'amour, il faut des égaux. Qui peut parler d'amour quand c'est la raison d'État qui domine ?
Retrouvez Médée dans les émissions de France Inter. France Inter. La différence.
Et il est 15h05 sur France Inter. Là, retrouvez Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Écoute Daniel, je viens d'aller me balader sur le site de la NASA. J'ai regardé attentivement les photos de d'Armstrong et Aldrin sur la Lune. Et j'ai cru voir dans la visière d'Aldrin en reflet, c'est Nicolas Sarkozy. Oh, ça fait du bien d'entendre les messages du répondeur d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est lassant, cet autosuffisant, sans la conviction inébranlable du bien fondé des valeurs prônées par le capitalisme triomphant. Déjà en 89, j'avais pleuré face au chantre du libéralisme qui assénait les vertus du système qui a battu le communisme échec et mat. L'Occident n'avait plus d'ennemis. Ça devait être merveilleux. Pourtant, il a fallu en trouver de nouveaux ennemis. Merci à la dynastie Bush d'avoir défini un nouvel axe du mal. Mais maintenant que tout ça branle du chef, on vient nous rebattre les oreilles avec une commémoration où on nous en met une couche, des fois qu'on n'aurait pas bien compris que le monde déniquait est merveilleux. Allez, à bientôt. Et on continue, merci.
Ton émission, je m'appelle Aurèle, j'appelle de la Lorraine, je suis allemand, mais j'appelle au sujet de la chute du mur. Je m'étonne un peu de ce tintamarre qu'on fait au sujet du 20e
Il est des événements tellement épouvantables qu'il continue à résonner à travers les années, les lieux et les gens. Je suis né 50 ans après la fin de la Grande Guerre, et pourtant c'est un événement qui est toujours présent dans mon département. Nous avons aussi subi de plein fouet la Deuxième Guerre mondiale, mais elle n'a pas eu un impact aussi douloureux. C'est à vous, mes ancêtres, mais pourquoi n'ai-je pas l'impression qu'une telle catastrophe humaine ne puisse se reproduire?
Bonjour, j'ai été très interpellé. Par les deux émissions sur Crown. Alors je voudrais rectifier quelque chose dans l'émission d'hier. Il n'y avait pas que les paysans, les agriculteurs bretons qui étaient à dans cette ignoble boucherie, mais il y avait également les ouvriers normands. Mon grand-père, avec ses deux frères, je donne le nom, Levasseur, c'est un nom très courant, en Normandie, de Caen, sont morts tous les trois à Crown. Et l'on dit pudiquement le chemin des dames. Enfin, du mon âge, je connaissais Crown. Et je suis absolument subjugué par le fait que vous ayez exactement retranscrit ce que j'entendais familialement. Alors je suis très 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 heureuse que maintenant ce soit connu. C'est comme il y a l'émission qu'il y a hier soir à la télévision sur le général de Gaulle et le Parti communiste, ça honore la France. Merci beaucoup et à bientôt.
Oui, bonjour, une réaction par rapport aux émissions sur la guerre de 14. Daniel Mermet dit que c'était aussi une occasion pour le capitalisme de se débarrasser de trop de monde suite à l'industrialisation. Je trouve que c'est intéressant de le mettre en parallèle avec le fait aussi que les mouvements sociaux et l'international, les accords entre les ouvriers allemands et les ouvriers français à travers des personnes comme Jean Jaurès, comme Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht étaient très très puissants à cette époque, et que la guerre de 14-18 a aussi été une manière de mettre un terme à cette dangereuse entente. Voilà, merci pour les émissions. Au revoir, c'était Jean-Philippe.
Ceux qui en auraient fini ont remarqué que certains de ces messages des trois derniers font partie des archives de la base où je suis, suite à la diffusion d'une émission culte de la base où je suis sur les mutants de 1917. attention aussi pour nous, et pas seulement pour nous, bien évidemment, qui était Joseph Doufemme. C'était un soldat de la guerre de 14 qui fut condamné à mort et fusillé le 12 juin 1917. On était allé il y a des années dans ce village du Puy-de-Dôme qui s'appelle Tauve, où la famille de Joseph Dauphin, sa nièce et le mari de sa nièce passaient leur vie tout entière à essayer d'obtenir la réhabilitation de Joseph Dauphin. C'est de là son mort, sans que Joseph Dauphin ait été réhabilité il y a très très peu de matins de 1917 et les autres qui ont été réhabilité ce soir, Antenne 2 diffusera blanchement pas l'histoire de cette femme qui elle aussi voulut que son ancêtre Théophile Maupas fut réhabilité. Il avait été fusillé en 1915, mais Joseph Dauphin, notre Joseph Dauphin, c'était à la suite du chemin des dames, 200 000 morts du côté français, 300 000, pense-t-on, du côté allemand, 500 000 au total. C'était parmi les 10 millions de morts de cette guerre. On comprend rien à ce 20e siècle, ni au jour que nous vivons aujourd'hui, si on ne se penche pas sur cette guerre de 14, sur cette mémoire qui se résume toute entière dans la phrase de l'Atoll France: on croit pour mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, hommage aux mutins, à ceux qui ont réussi à avoir le courage contre l'évidence et contre l'ordre dominant de mettre leur crosse en l'air. Ça leur a coûté cher, puisque, et on ne sait toujours pas exactement le nombre de ceux qui furent fusillés pour la gloriole des brutes galonnées. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas. Si j'y suis auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, et 01 56 40 37 37.
On était attentif du prud'homme de l'Auvergne et de ses environs. La démocratie serait-elle crasseuse? La démocratie serait-elle raciste? Pour essayer de répondre à ces angoissantes questions, le nouveau repère de la base issue de Clermont-Ferrand aura lieu ce jeudi 12 novembre à 18h au Baron de Café, 5 boulevard Trudel à Clermont-Ferrand, en face de l'école. débattre. Du comment est-il possible de vivre ensemble sans pour nécessairement être gouverné, nous vous attendons en couple, seul ou en communauté. Je dis donc, 12 novembre, au bar de café, 5 boulevard Prud'homme à Clermont-Ferrand, 18h précise, merci, à jeudi. Bonjour Daniel, à toi et à toute ton équipe. Il circule sur internet une pétition sur le droit à la sexualité en prison, organisée par le RAID, R-A-I-D-H, Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme. Livre d'Arnaud Gaillard va sortir jeudi 12 novembre, intitulé « Sexualité et prison ». Je ne l'ai pas lu, bien sûr, puisqu'il n'est pas encore sorti et je ne connais même pas qui est Arnaud Gaillard. Ceci étant, je suis femme de détenu. J'ai épousé mon mari, mon amour, il y a un an à Fleury-Mérogis. Nous n'avons jamais pu faire l'amour, et ce n'est pas l'envie qui nous manque. Je ne vais pas te raconter là comment nous nous sommes connus et aimés, ce serait beaucoup trop long. Je sais simplement, toi qui de temps en temps t'intéresses à la question de la sexualité, ben j'aimerais bien que tu fasses éventuellement une émission sur ce sujet et peut-être aider à lever ce tabou. Voilà mon message, c'est pas facile. Et continue à nous informer aussi magnifiquement que tu le fais. Toi et toute ton équipe, à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre de Redon. Donc c'est un avis pour les auditeurs AMG de la région de Lorraine. Une réunion sur la décroissance aura lieu le jeudi 12 novembre à 20h au bar Ramon et Pedro, 45 rue du Hamel, c'est en face de la gare de Rennes. Et le thème abordé, c'est relocaliser la politique ou comment la décroissance peut créer un rapport de force. Salut, à 20h jeudi. Salut les ONG de l'hiver. Le prochain rendez-vous du repère de là-bas si je suis, de Saint-Bernard-du-Touvet, aura lieu le vendredi 13 novembre au Sabot des Muses. Le sujet sera l'instruction à la maison. Venez échanger vos idées, on vous attend.
Arriving from New York.
chaîne à la main, mettant les doigts sur les gâchettes. Celui qui ne tue pas sera tué. Caporal Dauphin Joseph, fusillé pour l'exemple et par ses copains au petit matin. Peut-être n'a-t-il pas même fredonné. Aujourd'hui, suite à la chanson du Crown, voici l'histoire d'un de ces mutins qu'évoque cette auditrice. C'est le caporal Dauphin. Une histoire ce caporal Dauphin, un fils décédé maintenant, mais qui toute sa vie a souhaité la réhabilitation de son père. Aujourd'hui, cette histoire est toujours un enjeu de mémoire. Cet homme innocent, dégradé, fusillé, ne fut jamais réhabilité. Et cette histoire fait partie de celle qui brûle toujours. Elle fait partie de ces braises insoupçonnées et têtues, ces braises qui racontent la France, la profonde, celle de la terre et de la justice et de l'honneur d'un petit homme. C'est en Auvergne, c'est en automne, un automne doré, rouge et jaune sur ciel d'ardoise, il y a un soleil qui frise, les sommets enneigés, c'est très beau, et on rêve de pâté au chou et de fromage bleu, et puis on arrive à 12 000 habitants. Il y a une place où Jacques Tati aurait pu tourner un jour de fête, sauf que c'est pas la même fête aujourd'hui. C'est le 11 novembre. Monument mort, gerbe déposée, sonneau disposé avec le fil jusqu'au haut-parleur, drapeau tricolore, pompiers. Retournement des morts au sud de Madagascar. Un Dalton en tenait aujourd'hui encore comme ces hommes-là. Un Français doit mourir pour elle. Pour elle, un Français doit mourir.
Oh, my God. Enfin, c'est quand même la signée, c'est la guerre de 14.
saison, il y a plusieurs raisons qui expliquent que les communes rurales ont été très frappées, qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui partaient à ce moment-là, qui étaient dans l'infanterie ou dans les chasseurs alpins. Autrement dit, dans les armées qui ont payé les premières lignes, ce qu'on mettait devant, quoi. Les chasseurs alpins, là, il y en avait pas mal ici. Et bien, on sait où est-ce qu'ils ont le plus trinqué, sur quelle bataille, sur quelle... Ils ont trinqué partout, ouais. Enfin, il faut bien reconnaître que comme partoyeur, ça a été quand même la grosse saignée, ça a été Verdun.
J'avais des dames, ils en parlent toujours. Vous savez, j'avais un grand-père qui avait fait les 5 ans, mais il parlait encore à son décès, il parlait encore du chemin des dames. Il y a des générations qui oublieront. Moi, je suis parti, mon père était ancien combattant, il était... il était au régiment quand la guerre s'est déclarée. Il a fait toute la guerre jusqu'en 1913 à 1919. 6 ans sous l'uniforme. Alors, vous savez, pendant mon enfance, j'en ai entendu parler de la guerre. Vous savez, j'ai davantage entendu sur la guerre de 14 en entendant mon père raconter tout ça qu'en lisant les manuels d'histoire. Moi, je me rappelle, depuis tout j'ai toujours assisté au 11 novembre parce que mon père y allait. C'était peut-être la seule fois où il allait au chef-lieu de la commune, puisqu'on habitait en dehors de chef-lieu, mais c'était sacré pour lui le 11 novembre, ça et c'est la France, là, c'est la République, il avait fait la guerre.
En quelques mots, je vous rappelle ce qui s'est passé. autour, pense qu'il y a eu 150 000 soldats français qui ont été tués dans cette offensive ratée. Et à la suite de cette défaite, eh bien, les hommes se demandent des permissions, mettent la crosse en l'air. Il y a des mutineries dans les trois quarts de l'armée française, notamment dans les grandes unités qui combattent sur le front. On entend crier « Vive la Révolution !» On entend crier « Vive les Russes !» On entend crier « À Paris !» On entend chanter « L'International !» On voit des hommes, des unités arborer le drapeau rouge, et on entend surtout chanter, murmurer, fredonner, parce qu'elle est absolument interdite, la fameuse chanson de Crâne. Et la réaction à ça sera très dure de la part de l'état-major. Il y aura des jugements sommaires, des hommes pris au hasard, des fusillés qui seront fusillés pour l'exemple, par leurs propres copains, et parfois même, et c'est le cas ici où nous trouvons à Tours, par des copains du même village. Brugière François, Brugière Jean, Brugière Marcelin. Ça, c'est votre famille?
Non, mais c'est les frères. Et ce Brugière François dont on parle dans les coupures de fourneau, on l'avait désigné pour fusiller notre homme qu'il n'a pas voulu.
Attendez, vous voulez dire que...
Brugière François.
Brugière
François.
Brugière avait été nommé pour fusiller votre homme.
Il était dans le même régiment, ils étaient ensemble. Et il voulait que ce soit lui qui le fusille. Il n'a jamais voulu. Alors il l'a envoyé, je ne sais pas où il est mort. Il savait qu'il ne durerait pas longtemps. Quoi. Où il l'a envoyé, c'était le bagne. Quoi.
Alors peut-on rendre un homme les honneurs alors qu'il n'a jamais perdu le sien? C'est un peu l'histoire de ce caporal Dauphin qui avait un fils. Ce fils est décédé maintenant, mais ce fils voulait que son père fût réhabilité. Ça n'a pas été le cas, ça a été rendu impossible, mais les neveux, la famille, les descendants de ce caporal, des gens âgés, vous allez les rencontrer, sont très attachés à ce que cet homme soit réhabilité. Parce que c'est juste et pour son honneur. Vous avez quel âge, monsieur Dauphin?
J'ai commencé les 85.
Il a eu 84 au mois de septembre.
Vous êtes vraiment en forme, hein?
Super.
Les chambres vont pas bien, Thomas. Ah, ça commence à plier un peu. Et vous, madame Dauphin?
Eh bien, gars, j'ai eu les 80 au moins de juin. Moi, je commence les 80.
Vous êtes en forme tous les deux.
On se soutient l'un à l'autre.
Si j'ai les pieds sur la table, voir comme ça, on ne croirait pas que j'ai une stage là, bien sûr, et pas par les cheveux blancs. Et vous êtes tous les deux natifs de Tauve ?
Ah, moi, je suis né à la route. Mais c'est toujours le canton de Tauve.
Et vous, vous êtes de Tauve, monsieur ?
Moi, j'ai toujours habité à Tauve.
Mais tu es né ?
Je suis né. J'ai habité. Sauf que j'ai fait 18 mois chez Michelin avant la guerre. Après, j'étais prisonnier, je me suis évadé. On a pris une ferme.
Et puis après, il a été nommé facteur.
Nommé facteur. Moi, j'ai fait 30 ans de facteur. Et dans la montagne, il tombait beaucoup plus de neige qu'aujourd'hui. Alors, les 7 dernières années, on avait la voiture.
Tiens, moi, j'étais à pied.
Ah oui, 30 km en moyenne.
Chaque jour ?
Eh oui.
Alors, en arrivant à chaque ferme, il fallait poser le sac, boire un coup.
Non.
Ouf. Allez.
Ah non, oh non, non.
Je vous le dis franchement, j'avais 2 maisons. Plus j'ai soif ou pas, il fallait boire un demi-verre. Parce que la patronne m'a dit, ça me verse si vous ne buvez pas. Alors là, je vais un demi-verre. Mais après, un bonbon ou un petit morceau de gâteau, des fois, oui. Et en route. En route, je suis jamais rentré avec la cuite. Jamais. Une fois. Une fois, c'était pas de ma faute. C'est vrai ça, madame Dauphin ? Une fois, pas de ma faute. Elle s'en souvient même pas. Oui. Mais c'était le général de Gaulle qui avait dit qu'il fallait faire grève de 11h à midi. Eh bien, on a posé les sacs.
Pourquoi le général de Gaulle vous avait demandé de faire grève ?
Ah, c'était à cause de la guerre d'Algérie.
Il a fait la guerre
d'Algérie. Oui, et alors, on a posé les sacs à 11h. Mais il y a 15 cafés dans le bourg, là.
15 cafés.
Je sais pas plus ici de la France. Je sais pas plus ici de la tournée. Bon, poula. Je me sentrais bien là-bas, et puis ce soir, c'est trop long pour moi.
Ça me fait plaisir que vous m'emmeniez avec nous à la maison. C'est simple, hein?
Hein?
Ah, pas simple, hein?
C'est...
Ça nous dérange pas, ça nous fait pas simple.
Ça nous fait plaisir. Mais je vais partir en premier, je vais aller pêcher les pommes de terre. C'est vous qui allez pêcher les pommes de terre ?
On a pêché tout ce que je
prends.
Je te trompais dans mon étable. De grandes blancs marqués de rouge, la charrue est en bois d'érable et l'aiguillon en branche de houille. J'aime Jeanne, ma femme. J'aimerais mieux la voir mourir que de voir périr mes bulles. C'est grâce à eux qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. Ils gagnent plus dans une semaine que d'argent ils ont coûté. Brugière François a refusé en 1917 de tirer sur Joseph Dauphin. Il a dit « La balle ne sera pas pour celui qui est devant moi, mais pour celui qui derrière me commandera de tirer. » Et à la suite de ça, il a été envoyé aux travaux forcés dans les bataillons d'Afrique et il est enterré à Orléansville. Et son... en Algérie. Et son neveu pense qu'il est mort en 17, qu'il y est resté très peu de temps. Et son neveu vit à Tours, c'est un coiffeur retraité.
Et son nom, il a son nom sur le monument mort.
Il a son nom sur le monument mort. Et il y a deux frères qui sont morts à la guerre, qui sont aussi sur un monument aux morts. Et il y en a un qui doit être mort quand on disait mort des suites de la guerre. Mais il n'a jamais été reconnu comme mort à la guerre, celui-là.
J'ai des grands-bœufs dans mon étable, chante Madame Dauphin. Ce serait pour ça que le caporal Dauphin, selon les histoires et ce qui a été écrit sur lui, très peu de choses qui ont été écrites sur lui, c'est parce qu'il avait chanté ça, il avait bien un petit coup du ton. Il avait chanté ça et voilà, ça suffisait à être considéré comme un mutin, comme quelqu'un qui était contre la patrie, contre la France, et ce serait pour ça qu'il aurait été injustement fusillé. Bah écoutez, l'histoire du caporal Dauphin, moi, elle est très facile à raconter. Je sais qu'il a été fusillé. Injustement, certainement, parce que on m'avait dit qu'ils avaient refusé de marcher. C'est bien. Quand on a la porte sur la tête, il faut l'avoir vécu pour comprendre ça. Et alors, il n'a jamais été réhabilité, en fait. Il n'a jamais été réhabilité. Je crois que c'est un peu de la faute de son épouse. C'était une femme, vous savez, cette pauvre femme, moi je le comprends. Mais ça l'a démoli, cette femme. J'ai toujours entendu dire qu'elle avait refusé qu'il soit réhabilité. Pourquoi elle a refusé? Qu'est-ce que ça l'a démoli, on comprend? Mais vous savez, c'est une femme d'abord du caractère, hein. Vous savez, elle était
attention, hein, c'était pas... Comme on dit, c'était une maîtresse femme. Elle était vraiment... Pourquoi elle s'opposait à la réhabilitation de son mari? Parce qu'elle avait la conviction qu'effectivement il avait désobéi ou... Je ne sais pas, peut-être ça ne... Je ne sais pas. Parce que bon, certainement, je n'ai pas été réhabilité. Elle ne touchait pas de pension. Bien sûr. Donc c'est un dommage. C'était dommage pour elle et pour son fils, quoi. Et si elle avait laissé réhabiliter son mari, je pense qu'il aurait été réhabilité, moi je sais pas, son fils aurait probablement pas fait le régiment. Comme orphelin de guerre, je pense, hein. Et il n'aurait pas fait les 5 ans de captivité, hein. Parce qu'il a fait les 5 ans. Il a été libéré, lui, à la fin de...
44 fils, 45.
Est-ce qu'il est trop tard pour le réhabiliter aujourd'hui, ce caporal? Je ne sais pas. Peut-être pour, disons, pour l'honneur, pour... c'est triste, hein. C'est certain, vraiment, vous savez, c'est triste. Adieu ma femme, adieu mon enfant, puis...
Faut que j'ai du courage aussi.
vous savez. Et puis j'étais obligé de marcher, sinon c'est eux qui passaient. Et jamais chez moi, j'en ai entendu parler, on ne nous en parlait pas à nous. On ne parlait pas de ça. Il y a ma cousine, Imelda, qui a 10 ans plus que moi, eh bien, elle me disait que chez elle, on n'en parlait jamais, on en parlait quand les gosses n'étaient pas à la maison. Autrement, on n'en parlait jamais. Ce qui fait que j'étais grand, moi, quand je l'ai appris, je crois, par un livre, peut-être, même. On n'est pas sans famille. Et pourquoi non? Parce que c'était une honte.
Parce qu'ils n'aimaient pas parler des décès aux enfants.
Ouais.
Et surtout, là, c'était peut-être un peu la honte, comme vous dites.
Ouais, c'est ça.
Ils avaient peur que les gens parlent de moi. Je n'allais pas encore à l'école, puisque je suis né en 17.
Ouais.
Eh bien, j'ai toujours entendu parler, mes parents, le pauvre Joseph Dauphin. Il ne méritait pas ça. Il est sûrement innocent. Il était jeune, il était brave. Voilà tout ce que j'entendais dire.
Oui.
Tout le temps.
C'est ce qu'on entendait dire, mais est-ce qu'on vous disait comment il était mort?
Ah oui, on m'avait dit qu'il avait été fusillé par les Français.
Ah, fusillé par les Français.
Ah oui. Et il y a un bruchière de Puigermont qui était avec lui. On voulait qu'il tire sur lui. Il n'a jamais voulu. Ça, je l'ai toujours entendu, gamin. Et c'est ce François Brugière qui est donc mort. Je ne sais pas si c'est en Afrique. Je ne sais pas où. Ils l'ont envoyé dans un régiment où ils savaient qu'il ne vivrait pas longtemps.
Parce qu'il a refusé de tirer sur son...
Sur son frôlet, sur son copain. Ils étaient de la même commune de Tauves. Ils se connaissaient bien. Et il n'a jamais voulu tirer dessus. Et le voilà, le Joseph Dauphin.
Oh, c'est un tout petit médaillon avec une minuscule photo en noir et blanc. Et c'était un chasseur parce qu'il a le grand béret du chasseur.
C'est là un
beau gars.
Donc, son épouse qui me l'a laissé.
Et ça,
avec
c'est...
ça.
Et ça, c'était un médaillon.
Oui, sûrement.
Que les femmes devaient garder un pour elles.
Sa femme a dû le faire faire quand il a été mort. Elle devait avoir cette photo. Et elle a fait faire le médaillon.
Qu'elle devait porter autour du cou.
Oui, je pense.
Ah, mais vous amenez des tas de souvenirs, des tas de papiers, des tas de vieux articles qui sont dans cette pochette. Du tissu.
Ah, j'ai...
Ça, c'est une croix de guerre.
C'est sa croix de guerre qu'il a eue en 1915.
Oui, avec les palmes.
Ah oui.
Oui. Alors, il a eu donc cette croix de guerre en 1915. C'est très, très touchant parce qu'il y a la croix. sa femme.
La femme du caporal?
Oui.
Oh oui, je l'ai gardée à la maison. Mais pas moi.
Vous n'avez pas l'air d'avoir un bon souvenir.
Comme karaté. Bien, regardez, je lui pardonne tout.
Oui.
Parce qu'elle était vraiment méchante. Méchante.
Elle voulait rester, comment on pourrait dire, moi, renfermée peut-être sur elle-même. C'était ce drame, disons. Comme si elle avait honte, tout ça.
Elle s'était, je vous dirais, comment, révoltée contre les Français, contre la France. D'ailleurs, elle nous avait toujours dit, elle a toujours dit, parce qu'on passait les veuves de guerre devant le monument à leur mort. Elle avait dit surtout qu'on ne me passe pas au monument.
Avec son cercueil, elle ne voulait pas être présentée. Parce que ici à Tours, sur la place, on a la mairie, on a l'église, on a le monument mort autour de la place.
Oui.
Et donc, les veuves. Des morts à la guerre de 14.
Oui. On passe devant le monument. On fait une minute de silence devant le monument.
C'est ça, on hommage à leur mari
mort.
Et elle avait demandé qu'on...
Ah non, qu'on le fasse pas.
Elle a jamais pardonné ce geste barbare vis-à-vis de son mari. Voilà, et elle s'est révoltée là, elle s'est renfermée sur elle-même, et moi je crois que c'est ça. Donc pour elle, demander la réhabilitation, ça aurait été comme une humiliation.
Oui, voilà.
C'est ça. Alors, ça, là, on a une lettre qui a été adressé le 24 juillet 1917 par l'aumônier militaire qui a assisté à l'exécution du caporal Dauphin et qui s'adresse au curé du village ici. Qui s'adresse au curé de Tauves.
Oui.
Alors, il lui dit, j'ai eu en effet la douloureuse mission d'assister le pauvre caporal Dauphin au moment de son exécution et je suis heureux de pouvoir vous donner l'assurance qu'il est mort en bon chrétien. Ce pauvre garçon a été évidemment victime de la propagande criminelle qui a été faite à ce moment-là en France, aussi bien sur le front qu'à l'arrière, en faveur d'une paix immédiate à tout prix. Propagande qui semble aujourd'hui enrayée, mais qui s'est manifestée alors par des tentatives de grève à l'intérieur et de rébellion dans l'armée. Est-ce que, vous, selon vous, croyez que votre parent était quelqu'un qui avait un esprit de rébellion, qui...
Oh non, probablement.
Non, c'était quelqu'un de courageux. D'ailleurs, s'il a eu les décorations et deux citations, c'est pas quelqu'un qui voulait se rebeller.
Il n'était pas, pas méchant, il n'était pas révolutionnaire, non.
Oui, ça vous pensez, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément?
De la façon que son fils m'en parlait des fois. Elle me disait qu'elle avait toujours eu mal au cœur parce que sa mère n'avait jamais voulu demander
la réhabilitation.
Réhabilitation. C'est ça.
Est-ce qu'on a douté de lui? Est-ce que les gens se sont dit, ah oui, il n'y a pas de fumée sans feu, s'il a été exécuté, c'est qu'il y a une raison?
Ça, j'ai jamais entendu parler comme ça.
Oui.
Non, jamais. Il y a juste un paysan qui est mort, je sais le nom que je dirai jamais, puisque le cousin Michel m'a dit, vous n'en parlerez à personne. Un jour, je sais pas, il discutait avec ce paysan lui répond, après tout, t'es qu'un fils d'un fusillé.
Parce que bien sûr, il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Et même si cet homme était évidemment, de toute évidence, innocent, fusillé par exemple, et bien c'était quand même un déshonneur pour la France, c'était un déshonneur pour sa famille, un déshonneur, et c'est sans doute pour ça on croit comprendre que l'attitude du sang de sa femme était bien celle-là de ne même pas demander sa réhabilitation, puisque cet homme était innocent. Il y a quelque chose là de l'ordre de la dignité, de l'honneur jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui ne plie pas, qui ne plie jamais dans des endroits où on ne s'y attend pas, évidemment, des gens sans décoration, s'ils ne sont pas dans les allées des justes et qui ne ramènent pas auprès des arcs de triomphe qui sont des gens très très modestes mais qui ont ce sens là de l'honneur et de dignité. Thank you. faute était grave et nécessitait un châtiment. On reste évidemment perplexe. Vous aujourd'hui, en clair, vous voudriez quoi ? Vous voudriez pour la mémoire de son fils,
oui.
Pour la mémoire de son fils, que les autorités publiques accordent la réhabilitation,
si c'était possible. Si c'était possible.
Alors, ce député auquel vous faites allusion, il s'appelle Henri Andros, ce gars-là, et il a publié un petit fascicule édité par le journal La Montagne, le journal du coin, le journal de Clermont-Ferrand, hein, qui s'appelle « Sous les balles françaises ». Il insiste bien, c'est bien clair, il ne prend pas de gants. Les crimes des cours martiales, et il fait allusion à 5 fusillés, Chaplin, Dauphin, donc votre parent, Marcel, Turgis et Waterloo, qui furent des fusillés innocents. Des fusillés innocents, quoi, hein. Et il adresse ce petit fascicule aux vivants qui veulent entendre exactement ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Et sur le dos du livre, là, de cette petite brochure écrite par Henri Andros, donc le député de l'époque, il y a une croix de bois, hein, les fameuses croix de bois de ces pauvres gars-là. Il n'y a pas de nom sur la croix, il y a écrit « mort en lâche ».
Seulement, maintenant, il a été transporté au cimetière bleu. Cimetière bleu, c'est à côté de Reims. On a été sur sa tombe. Il est bien porté caporal Dauphin, mais il n'y a pas...
Bon, relâche.
Non.
Il n'y a rien de restrictif.
Il a un numéro. C'est la carte du cimetière.
Ah, voilà la carte postale du cimetière de Maison Bleue. Ouais. Oh là là, c'est un champ de croix.
Oh là là. Il y a des allées, des allées, des allées, des allées. Je ne me rappelle plus de son numéro, mais il y en a
884.
Un, ça être celui-là.
Le numéro 884. Moi, je me demande quand même si ce à quoi vous tenez, c'est quand même que son honneur soit rétabli. Mais c'est un petit peu comme si c'était votre propre honneur, un peu l'honneur de votre famille et de votre nom.
Oui, un peu, oui. Mais moi, c'est pour Michel, moi, c'est pour Michel.
Oui. Son fils,
oui. C'est ses dernières volontés, c'est pour ça.
Oh.
l'exploration de la base, j'y suis un agent caporal dauphin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse et J'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org avec un salut à Tardy. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Armstam, Colin Guyen et Raphaël Moutet ont réalisé cette émission, assiste de Yes Le Bot et Catherine Pinto attend comme chaque jour vos messages au répondeur de la base J'y suis, 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Il nous reste quelques instants pour écouter ceci.
Thank you.
Minecraft et sourire. Ist noch da und wartet auf dich. Ich träume jede Nacht nur von dir. Oh Josef, Josef, ich krepiere noch an dir.
Und du bist so unfair, und du mich ja mal ab. Im Namen des Gesauers, der mich hilft. Mein Antrag, der reicht ab, der weit ab.
Du ministère du développement durable.
MSSF, bonjour.
Bonjour, je vous appelle sur les conseils d'un ami pour redonner la forme à mon épargne.
Oui.
Il m'a recommandé le RES de la MSSF pour les professionnels de la santé et leurs proches.
Votre ami est bien renseigné. Depuis plus de 40 ans, le contrat d'assurance vie RES de la MACSF est l'un des plus sûrs du marché.
Et vraiment plus rentable sur la durée que les contrats à temps promo.
C'est toute la presse financière qui le dit.
Il a bien fait de me dire de vous appeler au 3233.
Ou d'aller sur MACSF.fr ou encore dans l'une des 80 agences MACSF.
MACSF.
Notre vocation, c'est vous.
Et voilà, il est 16h sur la Terre. On se retrouve demain à 15h pour la messe où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Clotilde Dumez. Salut.
Les 27 devront peut-être voter pour désigner leur président. La présidence suédoise de l'Union européenne a reconnu cet après-midi ne pas avoir encore pu dégager d'accord sur des personnalités pour occuper les fonctions de président et de chef de la diplomatie de l'Union européenne. Il y a dixit plus de noms que de postes à offrir. Les Suédois qui n'ont pas exclu que le choix final, le 19 novembre, doivent être pris par un vote à la majorité qualifiée si un consensus ne peut être dégagé. Le corps de l'enfant retrouvé hier est bien celui de Younes. La justice belge l'a confirmé cet après-midi après l'autopsie. Retrouvé à Comines dans une rivière, l'enfant de 4 ans avait disparu il y a 3 semaines suite à une dispute violente entre ses parents. Renault va lancer une voiture low cost en Inde. Carlos Ghosn a signé hier à New Delhi l'accord de partenariat avec l'Indien Bajaj. Ce dernier est chargé de la fabrication et Renault et Nissan de la commercialisation de cette voiture. Elle pourrait aussi être exportée, car si le marché de l'automobile indien fait rêver, il commence aussi à être très encombré. À New Delhi, Philippe Levasseur.
Le marché indien fait rêver les constructeurs automobiles, mais l'aventure n'est pas sans risque. Renault a déjà subi un échec commercial ici avec sa Logan. Et la concurrence sur les modèles à batterie sera rude. Depuis le lancement de la Nano, la voiture la moins chère du monde, tous les constructeurs automobiles sont à l'affût. General Motors, Ford, Toyota, vont eux aussi produire un modèle bon marché en Inde. Carlos Ghosn promet que le prix de la version vendue par Renault sera tout simplement incroyable. Autour de 2000 euros. Il se garde bien d'avancer un chiffre précis. Fabriqué en Inde à très faible coût, promet quelques devoirs techniques. 4 mois après la mise en vente des premières Nano et du groupe Tata, les pannes se multiplient. Près de 20% des acheteurs ou même annuler leur commande. Les consommateurs indiens sont moins fortunés que les Européens, mais ils sont tout aussi exigeants. À New Delhi, Philippe Levasseur de l'agence Babel Press pour France Inter.
Le match amical entre l'Allemagne et le Chili est annulé. C'est du football et c'est la conséquence du suicide de Robert Henke, le gardien de but de l'équipe d'Allemagne, âgé de 32 ans. Il s'est jeté hier soir sous un train près de Hanovre. Au Master de Paris-Bercy, là je vous parle de tennis, nous trouvons sur place Fabrice Abgral, bonjour.
Bonjour.
Alors, Juan Martín Del Potro, Robin Söderlin, Novak Djokovic et Arnaud Clément sont pour l'instant les vainqueurs du jour, c'est bien ça?
Oui, très belle performance d'Arnaud Clément. L'Ex-Suisse s'est qualifié pour les huitièmes de finale en dominant l'Allemand Tomias, 17e mondial. Une victoire à l'arraché au terme d'un match marathon. Arnaud Clément s'est imposé en 3-7, 5-7, 6-3 et 7-6. C'est la première fois en 11 participations qu'Arnaud Clément atteint les huitièmes de finale à Paris-Bercy et demain en huitièmes de finale. se mesura à Novak Djokovic. Et puis Marat Safin a terminé sa carrière aujourd'hui au POPB. L'histoire retiendra que c'est face à Juan Martín del Potro, l'Argentin, que le Russe a disputé son dernier match, perdu en 3-7, 6-4, 5-7 et 6-4. Beaucoup d'émotions au POPV pour les adieux à la compétition de Marat Safin, âgé seulement de 29 ans. Marat Safin, ses 15 titres remportés depuis le début de sa carrière en 97, 15 titres dont deux en grand chelem, l'US Open en 2000 et l'Open d'Australie en 2005. C'est aussi trois titres à Bercy et deux Coupes Davis. Marat Safin a aussi été numéro un mondial, c'était en 2000. En matière de tennis, vous l'avez compris, Safin a tout connu, mais aujourd'hui, il a donc décidé de tirer sa référence. Merci Fabrice Abgral, France Inter.
En voile, le trophée Jules Verne, Franck Camas et son équipage sur Groupama comptent plus de 24 heures d'avance à l'Équateur, 24 heures d'avance sur le record du monde détenu depuis 2005 par Bruno Perrin.
Tous les dimanches à 20h10, devant le masque et la plume,
ça ne trouble pas de
Jérôme Garcin.
Oh, rien dire, enfin,
littérature.
Alors, bref,
Inter, concert Constantin, présenté par Vanny. Le jury, présidé par Olivier Ruiz, a consacré Émilie Loiseau, lauréate du prix Constantin 2009. Renseignements, franceinter.com. France Inter est le théâtre de la ville présente, du 11 au 28 novembre, deux œuvres de Pina Bausch avec le Tanztheater de Wuppertal. Volmonde, créé en 2006, et Mazurka Fogo, créé en 1998, après une résidence à Lisbonne. Deux programmes pour retrouver l'univers envoûtant de la grande chorégraphe allemande après sa disparition. À retrouver dans les émissions de France Inter. France Inter. La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Claudine.
Carrefour de l'Odéon.
Thank you.
Bonjour à tous. En cet anniversaire de l'armistice, on a pu voir ce matin la chancelière allemande, le président de la République française, devant la tombe du soldat inconnu ensemble, donc grand événement. C'est la réconciliation qui se poursuit, bien sûr. Et j'ai décidé de vous proposer une émission dans le même sens, une émission franco-allemande. On va commencer par l'Allemagne, avec Jean-Sébastien Bach, et puis un superbe concerto pour clavier en la majeure, certainement interprété par le maître, autrefois au clavecin, mais maintenant... Il a été phagocyté, récupéré, et c'est un grand plaisir d'entendre si bien son classique que sur le grand piano moderne que voici.